Vous êtes sur RTL.
Place à l'info tout de suite, RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est parti pour RTL Soir, on est ensemble jusqu'à 20h. Et à la une ce soir, la mobilisation, la solidarité pour les étudiants, les grandes victimes collatérales de cette crise sanitaire depuis près d'un an maintenant. RTL et le groupe M6 s'associent aujourd'hui avec le Secours Populaire Français pour venir en aide aux étudiants en difficulté ou en souffrance. Vous aussi d'ailleurs, vous pouvez les aider en ligne. don.secourspopulaire.fr/RTL. Alors vous allez les entendre, ces étudiants, mais aussi entendre tout à l'heure ceux qui les écoutent et ceux qui leur viennent en aide. À 18h35, nous aurons deux invités, Florian Tiranal, président de l'association Nightline France. C'est un service d'écoute tenu par des étudiants et ouvert chaque soir dans plusieurs villes de France. Et puis Thomas également, l'un de ces étudiants en grande difficulté, sera avec nous. Tout de suite le journal, c'est avec vous Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, le Covid et ce statu quo. Après un nouveau conseil de défense ce matin, le gouvernement, vous le verrez, appelle toutefois à la plus grande vigilance. Dans ce journal également, Jean-Claude Gaudin, toujours en garde à vue ce soir, l'ex-maire de Marseille est soupçonné de détournement de fonds publics. Et puis une histoire complètement folle, celle d'une mamie de 90 ans qui n'a pas hésité à faire 10 km à pied dans la neige pour se faire vacciner.
C'est la vieille dame qui marchait dans la neige.
C'est ça.
On la retrouvera donc à la fin du journal. En attendant, pas de neige chez nous, hein. Heureusement, Pays d'Ibroche, mais le retour de la pluie.
Exactement, Vincent, avec une perturbation qui va traverser le pays demain, mais lentement. Les pluies seront d'abord sur le nord-ouest le matin. Retour des entrées maritimes près de la Méditerranée, donc ça veut dire des nuages et quelques gouttes toute la journée. Ailleurs, un ciel plus ou moins voilé. Dans l'après-midi, les pluies elles vont se décaler entre les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Et retour d'éclaircies du coup sur le nord-ouest. Et un ciel lumineux sur l'est du pays, le tout accompagné de vent partout. Et côté température, quelques gelées sur le nord-est, mais des maximales encore très douces, comprises entre 9 et 21 degrés.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et d'abord donc ce nouveau conseil de défense ce matin à l'Élysée, à la sortie, sans surprise, pas de nouvelles restrictions ni tour de vis. Le porte-parole du gouvernement a toutefois lancé ceci.
La situation reste si fragile qu'un rien peut la faire basculer.
La situation reste si fragile qu'un rien peut la faire basculer. Bonsoir Jacques Serret.
Bonsoir.
Ce message, le gouvernement va le marteler ces prochains jours.
Oui, l'exécutif veut maintenir la pression sur les Français, éviter à tout prix un relâchement, car pour l'instant, le pari du chef de l'État de ne pas reconfiner tient bon. Le nombre de nouveaux cas détectés chaque jour diminue, moins 10% sur une semaine, a tenu à rappeler Gabriel Attal, et le nombre de patients hospitalisés baissent très légèrement. Des motifs de satisfaction, mais oui, le gouvernement ne veut pas céder à une certaine euphorie, surtout à l'aube d'un week-end qui s'annonce très ensoleillé sur l'ensemble du pays. Hors micro, un ministre le concède, c'est plus facile de faire respecter le couvre-feu quand il fait nuit à 17h et qu'il neige. C'est pourquoi demain, jeudi, malgré cette légère accalmie, Olivier Véran, ministre de la Santé, donnera tout de même une nouvelle conférence de presse, histoire d'appeler encore et encore à la mobilisation de tous.
Jacques Serret du service politique RTL. Oui, mais voilà, le discours n'est pas tout à fait le même du côté des professionnels de santé et notamment de la Direction Générale de la Santé ou encore de l'INSERM. Alors ce double discours, on en parlera dans quelques minutes avec le docteur Benjamin Davidot qui est infectiologue à l'hôpital Poincaré de Garches. Il sera le premier invité d'RTL Soir à 18h20.
Et parmi les victimes de cette crise, on le sait, vous le disiez Vincent, il y a les étudiants. Toute la journée, RTL et le groupe M6 s'associent au Secours Populaire pour recueillir des dons. C'est notamment tout particulièrement difficile pour ceux qui sont loin de chez eux, loin de leur famille. Myriam, par exemple, elle est étudiante en deuxième année de médecine à Paris. Elle vit seule, seule dans une chambre de 13 mètres carrés. Et sa famille, Valentin Boisset, est à Tunis.
Myriam vient de terminer un cours de biologie en ligne. Elle ferme l'ordinateur. Derrière son bureau, un tas de documents, un billet d'avion, celui du dernier retour en Tunisie il y a un an.
Février 2020, c'est énorme. Waouh. Et après, hop, Covid, il pouvait plus bouger quoi. On se téléphone, on se fait des zooms parfois. C'est que du virtuel, quoi.
Myriam se retrouve donc seule en France, où elle connaît peu de gens. Et la fermeture des universités ne va rien arranger.
Je passe ma journée à la maison. On voit nos profs dans des capsules qui sont préenregistrées. On n'a plus du tout le côté humain. C'est très fatigant. Allô ?
Chaque jour, elle reçoit un coup de téléphone de son père, Atem, qui l'appelle depuis la Tunisie.
C'est assez compliqué. Ils ont toujours besoin de résoudre des problèmes. d'un soutien au moins moral. Ces jeunes-là, vraiment, ils méritent beaucoup plus d'amour.
Il y a quelques semaines, deux de ses grands-parents sont décédés. Impossible d'assister aux enterrements. Myriam a craqué. Elle a dû demander de l'aide psychologique à son université.
J'ai perdu énormément de poids. Je pleurais 5 fois par jour. Tu t'enfermes toute seule. J'ai mes études, ok. Mais après, il y a la vie à côté. Parfois, j'ai des crises d'anxiété parce que je me dis, qu'est-ce que tu fais là ?
Son espoir, désormais, c'est de s'envoler vers Tunis l'été prochain. Si d'ici là, les restrictions sont allégées.
Reportage signé Valentin Boisset pour RTL.
Je vous rappelle que c'est une journée spéciale sur RTL et les antennes du groupe M6. Vous pouvez faire un don pour aider ces étudiants. don.secourspopulaire.fr/RTL. Je vous rappelle qu'à 18h35, on va y revenir avec l'un de ces étudiants, ainsi que le président de Nightline France. C'est un service d'écoute pour ceux qui sont en grande détresse.
Dans l'actualité également ce soir, l'ex-maire de Marseille en garde à vue, Jean-Claude Gaudin, est soupçonné de détournement de fonds publics. Hier, c'est son domicile qui avait été perquisitionné. Bonsoir Étienne Baudu.
Bonsoir Amandine, bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes sur place pour RTL. Que lui reproche-t-on précisément ?
Eh bien, nous sommes dans le cadre d'une information judiciaire diligentée par le parquet national financier ouverte en 2019. Les enquêteurs s'intéressent en fait aux membres du cabinet de Jean-Claude Gaudin, sa garde rapprochée alors qu'il était maire. Et il se trouve que pour un certain nombre, ils avaient largement dépassé l'âge du départ à la retraite. On parle entre autres d'une ancienne adjointe au cinéma âgée à l'époque de 78 ans, devenue chargée des relations publiques au cabinet, d'un ex-adjoint à la culture, 70 ans, chargé lui de prendre le pouls de la ville et celui des supporters de l'OM. Il y avait aussi une petite dizaine de proches anciens adjoints qui auraient, en échange de laisser leur place sur les listes électorales, bénéficié d'un poste de conseiller au cabinet, un poste pour service rendu en quelque sorte. Les enquêteurs tentent donc de comprendre dans quel cadre légal ces personnes ont pu continuer leur activité bien après l'âge du départ à la retraite. Pas forcément des emplois fictifs, encore que, mais des fonctions attribuées en dehors des règles administratives. Alors Jean-Claude Gaudin n'est pas seul. Aujourd'hui, son fidèle directeur de cabinet Claude Bertrand est lui aussi entendu par les enquêteurs. La retraite de Jean-Claude Gaudin n'est donc pas de tout repos, d'autant que d'autres affaires pourraient l'éclabousser. Celle du temps de travail des fonctionnaires à la mairie et celle de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne.
Étienne Baudu, l'un des correspondants d'RTL à Marseille. La mesure, vous en souvenez sans doute, avait fait polémique en début de semaine, la mise en place de zones sans contrôle d'identité, idée lancée par la défenseure des droits et qui était loin de faire l'unanimité. Eh bien ce soir, Jean Castex clôt le débat.
Je dis solennellement devant le Sénat et devant le pays qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de zone sans contrôle d'identité en application des lois de la République. Je vous remercie.
Le Premier ministre cet après-midi devant le Sénat. On part à présent pour Villeurbanne avec la colère de ses salariés, colère des salariés de General Electric. 80 d'entre eux ont décidé d'assigner la maison mère en justice. Ils lui reprochent de détruire l'emploi, elle qui avait promis d'en créer 1000 lors du rachat de la branche énergie d'Alstom. Tahar Kel Alpha est l'un des 80 plaignants.
On essaye de défendre notre gagne-pain, mais General Electric nous balade. En fait, chez General Electric, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Ce sont des danseurs. Avec General Electric, on danse la gigue. J'ai actuellement la cinquantaine. Qu'est-ce que je vais faire à 50 ans si General Electric décide encore de nous licencier? General Electric, elle ne cherche que ses propres intérêts, mais on n'est pas des numéros. On est des personnes à part entière. La plupart, on est des pères de famille. On a une famille à nourrir et c'est pas en nous jetant comme du poisson pourri qu'on va accepter les choses. Ce que j'attends moi du gouvernement, c'est qu'il puisse faire entendre raison à cette entreprise qui est devenue une entreprise qui ne cherche que ses propres intérêts et qui recherche que les intérêts des financiers.
La colère de ces salariés de General Electric, un témoignage recueilli pour RTL par Antoine Casalte.
Allez, on marque une courte pause et puis dans un instant, on va à Barcelone où certains chantent Paris es magico.
Mbappé.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Et la suite du journal d'Amandine Bégaud. Amandine, on va en Espagne ?
Oui, à Barcelone, après cette performance hier soir du PSG, 4-1, on le rappelle, face au Barça. Alors, on aurait pu penser que les Espagnols l'auraient un peu mauvaise. Eh bien non, c'est même presque tout l'inverse, Aurélie Chamerroy, presque.
Dans ce bar des sports de Barcelone, la défaite du Barça est prise avec une certaine résignation. Et c'est la performance du PSG qui est encore commentée aujourd'hui.
Je m'attendais à une victoire du Paris Saint-Germain, mais pas comme ça. Mbappé est une machine. Il va être parmi les meilleurs pendant 5 ou 6 ans facile.
Paris suit sa dynamique. Ils ont Mbappé. Que pourrait-il vouloir de plus ?
Ce match met tout le monde d'accord, mais sur la possible remontada au match retour, les aficionados ne sont pas unanimes.
Comme tous les bons coulés, je
prend la remontada et c'est toujours possible avec le Barça et les joueurs que nous avons. C'est pas parce que Paris a joué le match parfait que le Barça est fini.
C'est même pas la peine de jouer le match retour, pourquoi faire? C'est plié. Mais je ne crois pas non plus que le Paris Saint-Germain puisse gagner la Ligue des Champions cette année. Hein. Je le dis sérieusement, à mon avis, ils sont pas assez forts.
Plus encore que ce match retour, les supporters attendent impatiemment le 7 mars, date de l'élection du nouveau président du Barça. Ils espèrent que le nouvel élu redonnera un nouveau souffle au club barcelonais.
Aurélie Chamonroy à Barcelone pour RTL et ce match retour, on le rappelle, ce sera le 10 mars. Le sport espagnol, décidément pas au top. Rafael Nadal s'est fait sortir tout à l'heure de l'Open de tennis d'Australie, le numéro 2 mondial, battu en 5-7 par le grec Tsitsipas qui était pourtant mené 2-7 à rien au départ.
Le prince Philippe non plus n'est pas au top.
L'époux de la reine Elisabeth II a lui été hospitalisé aujourd'hui. Alors a priori Vincent, et c'est pour ça qu'on en rit,
exactement.
Rien d'inquiétant, hein, dit le palais de Buckingham, qui assure d'ailleurs que ça n'a rien à voir avec le Covid. Âgé de 99 ans, le prince est d'ailleurs arrivé, et c'est important, en voiture à l'hôpital et non en ambulance. Aux États-Unis, c'est une autre nonagénaire qui fait la une de l'actualité, une femme de 90 ans qui n'a pas hésité à faire 10 km à pied dans la neige. Pourquoi ? Eh bien pour aller se faire vacciner contre le Covid, Lionel Gendron.
Oui, cela faisait des semaines que jour et nuit, Fran essayait sur son ordinateur de décrocher un rendez-vous. Enfin, elle en obtient un dimanche matin. Mais les routes sont bloquées et l'hôpital est à 5 km. Pas question de reporter, Fran enfile ses bottes et entame sa grande marche dans la neige.
Je n'avais pas le choix, il fallait que j'y aille à pied, mais j'ai été prudente, j'y suis allée doucement.
Et il valait mieux car elle a récemment été opérée de la hanche. Fran est arrivée avec 5 minutes de retard, mais elle a bien eu sa première injection. Un quart d'heure de repos avant les 5 km du retour. Si elle a pris ce risque, c'est qu'elle n'en peut plus d'être éloignée de sa famille à cause de l'épidémie.
Je veux passer plus de temps avec ma famille et prendre dans mes bras mon arrière-petit-fils. Je l'ai vu quelques fois, mais je n'ai pas pu lui faire de câlin.
Sa deuxième injection est prévue début mars. Elle préférait tout de même pouvoir y aller en voiture.
On espère aussi pour elle. Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux États-Unis. Les États-Unis qui font face à une vague de froid exceptionnelle, y compris dans le sud du pays, qui est plutôt peu habitué. Moins 12 degrés, par exemple, au Texas, où 2,5 millions de personnes sont ce soir privées d'électricité.
Mais c'est pas du tout comme ça chez nous, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et oui, revoilà le printemps. Peggy nous annonce 17 degrés en moyenne ce week-end dans le nord, jusqu'à 20 dans le sud. Des températures dignes d'une fin avril. Alors certains petits chanceux en ont profité dès cet après-midi sur la dune du Pilat où il faisait déjà 20 degrés.
On est super bien. Hein. C'est joli des deux côtés. C'est magnifique, c'est sûr. Ça nous change de la semaine dernière. C'est excellent.
T'en penses quoi, Bastien, alors ?
Bah, après, ça va nous faire bizarre de retourner à Paris, puisqu'il fait un peu plus froid qu'ici.
C'est vrai que la tradition pour la dune, c'est, une fois qu'on est en haut, de la descendre en courant à fond.
Bien sûr.
1, 2, 3. Voilà, des propos recueillis pour RTL par Denis Grandjean, qui visiblement, lui aussi, en a bien profité. Il a raison.
On peut avoir encore un petit coup de François, là ? Quand même, ça aussi, ça fait du bien. Merci beaucoup, vous revenez à 18h30, Amandine.
À tout à l'heure.
On va marquer une courte pause et se préparer à accueillir le premier invité d'RTL Soir. Il est infectiologue à l'hôpital Poincaré de Garches. Le docteur Benjamin Davido arrive tout de suite dans le studio.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, donc, le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Poincaré de Garches. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Pour tout d'abord nous aider à peut-être répondre à une interrogation qui croire les autorités politiques ou les autorités sanitaires, parce que le discours n'est pas tout à fait le même. Il y a eu un conseil de défense ce matin. On a entendu tout à l'heure le porte-parole du gouvernement expliquer qu'il fallait rester extrêmement vigilant, mais qu'aucune nouvelle mesure de restriction ne serait prise. Et puis dans le même temps, on sait que hier soir, tous les professionnels de santé, peut-être vous-même, avez reçu un mail d'alerte de la Direction Générale du ministère de la Santé sur une situation jugée très préoccupante, avec crainte d'une saturation de l'offre de soins. Et on rappelle que l'INSERM a publié dimanche une étude qui prévoit que on pourrait aller vers un envol des cas au mois de mars. Justement, alors, qui croire aujourd'hui ?
Je crois que tout ce que vous avez résumé est cohérent, c'est-à-dire que depuis un certain temps, on est sur une véritable ligne de crête, que les hospitalisations, que ce soit les entrées ou les sorties, ne diminuent pas réellement et qu'il y a une véritable tension, parce que souvent, ce qu'on vous montre à la télé, les courbes dont on parle, ce sont les patients uniquement atteints du Covid, mais la réalité, c'est que c'est le verre à moitié plein, puisque de l'autre côté, il y a tous les patients qui n'ont pas le Covid et pour lesquels il faut trouver des places. Et c'est bien là le problème, et qu'à un moment donné, on ne peut pas étendre à l'infini les lits à l'hôpital.
Vous, à l'hôpital de Garches, vous avez encore une marge de manœuvre ?
Alors nous, c'est très compliqué. On a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de service d'urgence sur place, mais on a le SAMU, donc la réanimation, elle est pleine parce qu'elle est exclusivement dédiée à faire du Covid. Donc c'est un choix stratégique, si je puis dire, qu'on avait déjà fait aussi également en mars. Mais très clairement, ça ne se désemplit pas, et donc on est sur une vague qui est extrêmement difficile parce qu'elle est longue. Et c'est ça qui rend les choses difficiles, et le chiffre parle de lui-même, c'est qu'aujourd'hui on a plus de 82 000 morts versus 32 500 je crois durant la première vague, donc on voit bien que cette deuxième vague elle est extrêmement dure, extrêmement longue, extrêmement mortelle.
C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de patients qui entrent que de patients qui en sortent.
Oui, et puis ensuite il faut regarder aussi à l'échelle de chaque région, de chaque hôpital, et donc chacun va avoir sa particularité, et aujourd'hui la réalité c'est que globalement on est sur quelque chose qui est encore extrêmement dur, et on se prépare bien sûr toujours au pire, parce que d'abord c'est le principe de précaution à l'hôpital, et qu'il y a cette éternelle question dont on va peut-être parler, des variants.
Oui, alors parlons-en tout de suite. L'apparition des variants, pour l'instant, elle n'a pas eu les conséquences épouvantables, en tout cas dramatiques, que certains annonçaient.
Oui, vous avez raison. Alors, pour des raisons qu'on n'explique pas très bien, d'abord, l'histoire des variants aussi, quelque part, d'abord, il faut différencier le variant anglais des autres variants. Dans le fond, on joue aussi un petit peu à se faire peur, parce que les variants, on n'a jamais fait ça pour les autres maladies infectieuses. Et c'est quelque chose qu'on redoute, parce que on voit bien qu'en Angleterre, pour reprendre cet exemple-là, pour lequel il n'y a pas de problème, a priori, du tout pour la vaccination, on a eu une augmentation des cas très importants qu'on a assimilés aux variants anglais, mais qui sont tout simplement dus, probablement, à la politique sanitaire anglaise, qui est radicalement différente. Et pour une fois, on peut se féliciter en France, c'est que finalement, le pays n'a jamais été déconfiné depuis octobre. C'est ça, la réalité. On a eu, de toute façon, et on a encore un confinement horaire.
Oui, un couvre-feu, c'est une forme de confinement.
Absolument. Mmh. Et donc, ces mesures nous permettent probablement de ralentir l'effet de ces variants. Et la réalité, c'est que l'effet de ces variants, au-delà de la sensibilité et de l'efficacité vaccinale qui reste un point d'interrogation, on ne sait pas très très bien prédire si exactement on va avoir cette envolée exponentielle des cas. Et la réalité, c'est que pour l'instant, on a réussi à faire démentir les chiffres, même si on est sur quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement long, et qu'on espère qu'on aura le vent dans le dos avec une certaine saisonnalité. Et ça, c'est inconnu, puisque l'an dernier, à la même époque, on était confinés, donc on ne sait pas comment se comporte le virus, dans les pays de l'hémisphère nord.
Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si le virus est plus actif quand il fait froid, ou quand il fait doux, ou quand il fait humide, ou quand il fait sec. On n'a pas d'idée là-dessus ?
Alors, il y a un peu tout et son contraire qui a été dit. Vous allez me dire, comme beaucoup de choses sur le Covid depuis le début, mais on a beaucoup dit qu'aux températures extrêmes, finalement, il était probablement moins transmissible, et que dans une certaine fourchette. Alors, c'est toujours très difficile à dire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, on va avoir des politiques sanitaires qui vont être différentes d'un pays à l'autre. On va avoir des chiffres. C'est pareil, quand on regarde globalement, on a l'impression que l'épidémie s'arrête mondialement. Mais il y a les pays de l'hémisphère nord, les pays de l'hémisphère sud, et des politiques sanitaires de dépistage qui sont radicalement différentes. Vous ne faites pas 1,2 million de tests chaque semaine en Inde comme en France. Donc c'est extrêmement compliqué de comparer un pays à l'autre. Mais il y a une véritable question, puisque tout le monde entier était confiné à cette même période en mars, qui va arriver demain, de savoir est-ce que le virus pourrait diminuer en intensité avec le mois de mars, ou au contraire, est-ce que ces variants vont nous jouer un sale tour, j'ai envie de dire, et vont mettre à mal la stratégie vaccinale et la politique sanitaire actuelle.
Justement, vous parlez de la stratégie vaccinale, de la vaccination. Est-ce que, même au rythme actuel, que vous trouvez peut-être insuffisant, elle peut changer la donne, éviter justement qu'on tombe du mauvais côté de la crête? Je dis ça parce que, apparemment, en Angleterre, on commence à percevoir chez les personnes âgées une baisse du nombre d'infections.
Alors vous avez raison, c'est une question extrêmement importante. Je pense que c'est la seule chose qui nous permettra de sortir de cette crise. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un vaccin qui est supérieur à un autre et sur lequel parier ? Parce que dans notre malheur, on n'a pas de vaccin français, donc on n'est pas marié, on est marié à personne, et donc on peut se permettre d'avoir le meilleur des vaccins. Très clairement, si on regarde au-delà même de l'Angleterre, Israël qui a vacciné massivement, le deuxième pays, on n'en parle pas beaucoup, c'est l'Émirat Arabe Uni, mais on a moins de données. En Israël, on voit qu'il y a une diminution énorme, moins de 50% de contamination chez chez les plus de 60 ans, qui sont, il faut le dire très clairement, la cible majoritaire des individus à risque de faire des formes sévères et à se retrouver à l'hôpital. Et donc on a, si on veut être optimiste, un objectif de vacciner entre 15 et 20 millions de Français qui sont ceux les plus à risque de se retrouver à faire une forme grave. Et si on arrive à contenir l'épidémie avec un vaccin efficace et des données de science qui vont arriver dans les semaines qui viennent pour, je l'espère, nous conforter avec toute cette problématique des variants, eh bien on arrivera à contrôler l'épidémie dans les pays occidentaux et en Europe.
Donc, selon vous, si je vous comprends bien, il y a une priorité parmi les priorités aujourd'hui, c'est d'arriver à vacciner quasiment toutes les personnes de plus de 65 ans et toutes les personnes dites à risque.
Oui, absolument.
Et rapidement, en fait, alors, c'est un petit peu ça. Je veux dire, il faut le faire et rapidement.
Le plus vite on l'aura fait, le moins on aura souffert de cette crise, d'abord. Et puis, c'est un véritable jeu d'équilibriste, parce que tout le monde veut des vaccins, que ça prend du temps de vacciner 15 millions de personnes. Et encore une fois, il ne faut pas qu'on se trompe, parce qu'il faut qu'on ait utilisé le bon vaccin, avec un vaccin qu'on appelle coût efficace, pour ne pas se retrouver dans 2 mois ou dans 1 mois en train de dire « Ah ben finalement, il faut refaire une campagne de vaccination avec un autre vaccin parce qu'on se rend compte qu'il y a tel ou tel variant qui ne sont pas pris en considération. » Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui même qui nous échappent, il faut être extrêmement humble, on ne sait pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'un vaccin, il est d'autant plus efficace que l'épidémie est contrôlée. Pourquoi ? C'est ce que vous faites chaque année lorsqu'on vous propose de vacciner contre la grippe, vous vaccinez en octobre lorsque l'épidémie est plus bas pour vous protéger, et qu'il ne faut pas qu'on soit dans une situation où l'épidémie continue de grimper et qu'on vaccine des gens alors même qu'ils vont se contaminer et qu'on déploie une énergie, une capacité, des efforts en vain. Mmh. Et donc les deux choses ne sont pas antinomiques, il faut vacciner et contrôler l'épidémie.
En tout état de cause, ce sera encore long. On entend beaucoup vivre, il va falloir apprendre à vivre avec le vaccin, avec le virus.
Pardon. Et le vaccin aussi, vous avez raison.
Le vaccin. Mais ça veut dire aussi vivre avec le masque, ça veut dire aussi vivre avec un couvre-feu, ça veut dire aussi vivre sans restaurant, sans bar, sans aller au concert, etc. On fait une journée spéciale aujourd'hui sur RTL, les antennes du groupe M6, à destination des étudiants qui sont particulièrement touchés psychologiquement, financièrement. Il y a une lumière au bout.
Oui, il y a une lumière, et quand vous parlez des jeunes et des étudiants, ben moi d'abord je suis très sensible parce que je fais partie, on va dire, des jeunes. Plus jeunes, on peut dire ça comme ça, et puis surtout, moi j'ai des étudiants, et très clairement, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse appel à cette force vive, et on s'est refusé dans beaucoup de pays occidentaux à utiliser des outils numériques connectés intelligents. C'est un gros mot, je ne sais pas bien pourquoi, on fait des applications alors qu'on a plein de choses dans ses téléphones, comme vous le savez, c'est un secret pour personne, 99% des moins de 25 ans ont un smartphone, et que probablement, ces jeunes qui souffrent énormément, on va se sortir au 21e siècle, on utilise des vaccins ARN messagers qui sont des vaccins technologiques, des prouesses incroyables. Je me demande ce qu'aurait dit Pasteur aujourd'hui. Et on n'est pas capable d'utiliser la technologie informatique pour trianguler, être capable d'anticiper.
Vous parlez de l'application Tous Anti-Covid.
Je ne parle même pas de l'application, je parle tout simplement dans vos réglages, que ce soit votre iPhone, votre Samsung. Vous avez une application dans beaucoup de pays, également aux États-Unis. Alors on ne va pas parler des États-Unis, parce que les États-Unis, ils ont une situation très particulière, une gestion qu'on connaît, dont on va pas parler aujourd'hui, mais on peut tout à fait activer sans aucune application des systèmes de triangulation, de détection qui permettraient de suivre efficacement par exemple les variants, qui aujourd'hui posent problème et posent question, pour justement essayer de deviner où vont s'allumer les prochaines contaminations. Il y a des sociétés, des start-up qui travaillent, y compris sur des mondes connectés, pour anticiper 48 heures avant votre PCR que vous allez être positif. Et donc on a un challenge, à mon avis, technologique qu'il faut relever. On parle de cette jeunesse, c'est elle qui est la plus touchée et la plus à même à se servir de cette technologie pour se sortir de cette crise. Et j'espère, comme le dit le président Macron, que dans cette situation de guerre, on ne s'amputera pas de tous les moyens.
Voilà, sans se poser des questions qui n'ont pas forcément lieu d'être
Je ne veux pas parler au nom des jeunes, mais je pense que si on demande aux jeunes, je pense que c'est beaucoup moins délétère d'avoir des outils connectés qu'on utilise quotidiennement que de se retrouver toutes les semaines dans une situation où on ne sait pas si on va être reconfiné. Et je pense que même économiquement, psychologiquement, le chômage des jeunes, il n'y a pas photo. L'intelligence artificielle et la numérisation, que ce soit Waze, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Messenger, WhatsApp et j'en passe, ils ont malheureusement des milliards de données et on a des situations où on est dans une situation de crise où je pense qu'il faut se poser les bonnes questions.
Sur cette crête, on va y rester combien de temps selon vous ?
Alors c'est extrêmement difficile. Moi, je fais partie des optimistes. J'ose espérer qu'on puisse avoir un peu le vent dans le dos, si je puis dire, et qu'il existe une saisonnalité de ce coronavirus. On a vu qu'on était capable, avec toutes ces mesures barrières, de contrôler beaucoup d'autres virus, et ça n'échappera à personne. Il n'y avait pas de grippe cette année, mais de maladie pour laquelle, d'abord, on a un vaccin, c'est la grande différence, et qu'à un moment donné, toute la conjonction de tous ces efforts va permettre qu'au printemps, on ait des jours meilleurs et qu'on se retrouve idéalement dans la même situation que l'an dernier. peut-être de façon un peu plus décalée, pour aussi profiter de ce moment où ça ira mieux, pour développer des stratégies et faire des expérimentations, comme c'est le cas avec l'expérimentation des concerts.
Voilà. Et puis, peut-être des expérimentations numériques aussi.
Absolument. Je pense que c'est capital et c'est ce qu'il a manqué l'an dernier.
Merci beaucoup d'être venu le dire ce soir sur RTL, Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Poincaré de Garches. Merci. Une courte pause et puis dans un instant, bah tiens, là encore, on va parler de ces jeunes touchés de plein fouet par cette crise. On va s'arrêter sur leur situation financière avec cette idée du RSA jeune. Pourquoi ça coince ? C'est ce soir l'œil de Valérie Trierweiler. À tout de suite.
RTL Soir.
Il est 18h30.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Alors, évidemment, Amandine Bégaud nous rappelle l'essentiel de l'info.
Et à la une, ce nouveau conseil de défense à l'Elysée, à la sortie, pas de nouvelles restrictions, mais le gouvernement appelle une nouvelle fois la vigilance. La situation reste si fragile qu'un rien peut la faire basculer. Voilà ce qu'a dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Dans l'actualité également, l'ex-maire de Marseille, en garde à vue, Jean-Claude Gaudin est soupçonné de détournement de fonds publics. Et puis les Français de plus en plus accros à Internet, c'est l'une des conséquences bien sûr des différents confinements. Nous avons en moyenne passé 2h25 par jour à surfer sur le net en 2020, 20 minutes de plus qu'en 2019. Et là-haut, c'est encore plus net forcément chez les jeunes. Les 15-24 ans y ont passé 4h23 par jour.
4h23 sur Internet.
Pas pour leurs cours. Hein.
Non, c'est des cours, c'est en plus, évidemment. On va en parler d'ailleurs, évidemment, des cours en ligne à l'occasion de cette journée spéciale consacrée aux étudiants avec le Secours Populaire. Je vous rappelle, hein, vous pouvez faire un don, don.secourspopulaire.fr/RTL. On en parle dans un instant avec Valérie Trierweiler, mais tout d'abord, regardons du côté du ciel, Peggy Broche, parce que vous nous annoncez un changement de temps.
Exactement, pour demain, Vincent, on a une perturbation qui va traverser le pays. Les pluies seront d'abord sur le nord-ouest le matin, puis elles vont se décaler vers l'est. On les retrouvera entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine l'après-midi. Du coup, les éclaircies seront de retour sur la Bretagne et la Normandie. Près de la Méditerranée, des entrées maritimes, donc ça restera couvert toute la journée avec quelques pluies. Puis ailleurs, c'est un ciel plus ou moins voilé, bien lumineux dans la partie sud le matin, bien lumineux sur l'est l'après-midi. Et puis toute la journée, le vent sera de la partie, le tout sous des températures qui seront encore douces l'après-midi, quelques gelées quand même le matin sur le nord-est. Mais dans l'après-midi, de 9 à Cherbourg à 21 degrés attendus à Tarbes.
Merci Peggy, à tout à l'heure. Le mercredi, c'est l'œil de Valérie Trierweiler. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Vincent.
Nous restons évidemment dans le cadre de cette journée spéciale. Vous allez nous parler des jeunes et du Secours Populaire dont vous êtes la marraine, une des marraines. Hein, je le rappelle. Mais vous voulez surtout insister ce soir sur le RSA jeune.
Oui Vincent, parce que est-ce normal que des étudiants, qu'autant d'étudiants s'enfoncent dans la précarité ? Est-ce normal que des associations comme le Secours Populaire et d'autres prennent le relais de l'État ? Moi je pense que non, on l'a entendu toute la journée sur cette antenne. Le Secours Populaire vient en aide à des milliers d'étudiants en matière alimentaire, d'hygiène, aussi en aide numérique. Mais ça nous rappelle quand même un contexte qui est très difficile. Donc, à contexte difficile, les choses doivent changer. Le Secours Populaire était déjà présent pour les seniors, déjà présent pour les enfants, déjà présent pour les familles en difficulté. Alors non, cet appel d'air en direction des jeunes, pour pouvoir le combler, il faut des dons. Donc, nous comptons sur vous qui vous nous écoutez.
Voilà, et je rappelle, hein, don.secourspopulaire.fr/RTL. Mais que fait-on de plus ?
Alors, la solidarité, c'est formidable. Et vous savez, Vincent, que des étudiants qui sont aidés demandent à leur tour à aider les autres. Voilà. Mais ça ne suffit pas. L'État doit maintenant intervenir. Et on attend, justement, que le débat sans fin sur le RSA jeune, peut-être aboutisse enfin. Les circonstances ont changé. Les 18-25 ans ont le droit à être aidés différemment et beaucoup plus, surtout.
Ouais, c'est vrai que c'est pas nouveau. Pourquoi tant de résistance pour instaurer ce fameux RSA jeune, Valérie ?
Alors, d'abord, précisons qu'il existe. C'est ce qu'on nous répond. Mais il existe, en fait, il a été créé il y a déjà très longtemps, en 2009, et pour certaines conditions, il faut être un parent isolé, jeune homme ou jeune femme, ou alors avoir travaillé 2 ans. En fait, de fait, ça exclut les étudiants. Et savez-vous qui avait créé ça ?
Bah non, mais vous allez nous le dire.
Eh bien, c'était Nicolas Sarkozy, par le truchement de Martin Hirsch. Et aujourd'hui, ça continue à bloquer. Il y a eu encore un amendement le 21 janvier dernier qui voulait instaurer une autonomie jeune, donc assez semblable, et ça a été rejeté au Sénat.
C'est vrai, ce débat, il dure depuis des années. Est-ce qu'il y a encore une chance que cette mesure finisse par être adoptée?
Alors en ce moment, c'est difficile. Au gouvernement, des voix n'arrêtent pas de s'élever contre. Le porte-parole du gouvernement a encore dit qu'il s'agirait d'une défaite s'il fallait faire le RSA jeune. Et puis, quant à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, voilà ce qu'il en pense.
À 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail.
Voilà, il dit, à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail. Bah ok, un travail. Mais ils sont ok pour travailler. Mais du travail, il n'y en a pas. C'est mission impossible de trouver un job en ce moment. Alors je pose la question, est-ce que c'est bien de débuter sa vie de jeune dans une file d'attente pour demander de l'aide alimentaire?
Et du côté de l'opposition, on dit quoi?
Bah alors, du côté de l'opposition, évidemment, on est pour. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais du côté de la France insoumise, oui, il y a urgence à endiguer la précarité. C'est ce qu'ils disent, du côté France insoumise. Du côté du PS, ça a été comme ci, comme ça au cours des années. Certains étaient favorables, d'autres non. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Jospin, lui, avait préféré les emplois jeunes. On créait de l'emploi. Valls, en 2016, avait commandé un rapport et semblait un peu favorable, mais il avait reculé devant le coût. À l'époque, c'était 6 milliards pour aider dès l'âge de 18 ans. Et puis, dès demain, une poignée de députés socialistes va revenir à l'offensive à l'Assemblée nationale avec cet argument de Boris Vallaud. Eh bien, la majorité politique, c'est à 18 ans. La majorité pénale, c'est à 18 ans. Mais il n'y a que sur le plan social qu'on est majeur à 25 ans. En réalité, pour le gouvernement, il est urgent d'attendre. Et vous savez ce que fait un gouvernement quand il veut reporter ou enterrer un débat?
Bah non, mais ça aussi, vous allez nous le dire.
Eh bien, on commande un rapport. Voilà, c'est la meilleure façon. Et le dernier commandé va porter sur le revenu universel d'activité, un nouveau nom, RUA, avec une refonte des allocations. C'est-à-dire, à la fois le RSA, les allocations logement, certains vont y perdre, d'autres peut-être vont y gagner, mais en attendant, il est attendu pour le deuxième semestre. Autant dire qu'il n'y aura sans doute rien. Pour ce quinquennat, il faudra attendre le prochain.
Même s'il y a urgence.
Même s'il y a
aujourd'hui.
Urgence.
Merci beaucoup. C'était l'œil de Valérie Trierweiler. Chaque mercredi dans RTL Soir. On va pas vraiment changer de sujet. On va parler maintenant de ces étudiants, évidemment, à l'occasion de cette journée spéciale sur RTL et les antennes du groupe M6. Dans un instant, on va accueillir Florian Tirana. Il préside l'association Nightline France. C'est un service d'écoute tenu d'ailleurs par des étudiants et destiné aux étudiants en souffrance. Il est ouvert chaque soir dans plusieurs villes de France. Et puis l'un de ces étudiants, justement, sera avec nous également. Il se prénomme Thomas. À tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
don.secourspopulaire.fr/RTL. Voilà ce que vous devez, pouvez faire pour aider aujourd'hui les étudiants en détresse. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi avec le deuxième invité d'RTL Soir. Bonsoir Florian Tirana.
Bonsoir.
Vous présidez l'association Nightline France. C'est donc un service d'écoute qui est d'ailleurs tenu par des étudiants, qui est destiné à ces étudiants, qui est ouvert, je le disais, chaque soir dans plusieurs villes de France. Quatre au moins en tout cas pour l'instant. Il s'agit de
Lyon, de Lille, de Saclay et de Paris.
Voilà, et Saclay parce qu'évidemment il y a beaucoup d'étudiants à Saclay. On peut avoir une idée tout d'abord du nombre d'appels que vous recevez?
En ce moment on reçoit environ 200 appels par semaine, sachant qu'on fait plus que doubler chaque année. On a ouvert en 2017 et chose étonnante, alors qu'on a seulement 3 ans d'existence et que les Nightlines existent dans le monde depuis une cinquantaine d'années, on est actuellement la Nightline la plus sollicitée au monde. Donc ça pose des questions sur l'état de la détresse des étudiants en France.
Vous êtes aujourd'hui c'est la ligne pour les étudiants la plus sollicitée au monde. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces étudiants? Quel constat vous dressez? Quel qu'ils expriment et qu'est-ce qu'ils demandent?
Il y a beaucoup de détresse. Énormément de détresse qui peut prendre plein de formes. D'abord, elle naît dans des difficultés matérielles, dans des difficultés relationnelles, dans des difficultés liées aux études. Mais il ne faut pas oublier que avant, ça existait déjà. Et on a beaucoup parlé de ce chiffre de 1 étudiant sur 5 qui a des idées suicidaires récemment. Et quand on regarde l'étude Aicher qui sort en 2019 sur la santé des étudiants, on a le même taux. 2019, donc avant la crise sanitaire.
Donc on peut évidemment penser que ça risque de s'aggraver. Est-ce que tout d'abord ils vous parlent de leur isolement, que ce soit dans leur chambre d'étudiants, en CTU ou autre, isolement qui s'est très légèrement amélioré avec la possibilité de participer au moins une fois par semaine à des cours en présentiel.
Oui, l'isolement est énorme et c'est une source de détresse très très importante, peut-être principale.
Surtout qu'on est souvent... On est souvent loin de chez soi, en tout cas loin du domicile familial. Ça arrive en tout cas.
Ça arrive, et dans le domicile familial, on n'est pas forcément moins seul.
Oui,
et être étudiant, c'est pour beaucoup avoir une vie sociale, avec des amis, rencontrer des gens, rencontrer l'amour. Et tout ça, depuis un an, c'est très très compliqué. Donc même si ça se débloque un tout petit peu aujourd'hui, il y a une vraie problématique là-dessus, qui est que la vie étudiante sans voir des étudiants, c'est pas du tout la même chose, et c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, on va parler évidemment de l'aspect financier dans un instant, c'est très important, mais je voudrais avoir l'avis de Thomas sur ce que vous venez d'écouter. Thomas, il est étudiant en troisième année de psychologie à Lyon, je voudrais qu'on l'accueille. Bonsoir Thomas.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Est-ce que vous êtes reconnu dans ce tableau que vient de dresser Florian Tirana ?
Oui, tout à fait, je me reconnais totalement, parce que c'est vrai qu'on est dans une détresse sur tous les plans qu'il a pu citer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile actuellement et qui s'est creusé finalement avec les confinements, avec le coronavirus. Et forcément, il y a des choses qui étaient bien présentes aussi auparavant.
Est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon? D'abandon de la société finalement? Alors peut-être du gouvernement, de l'État, pensez-vous, mais finalement au sens large de la société?
Je peux vous répondre oui, tout simplement. Pour moi, je trouve qu'on est tout simplement un peu les oubliés du corona. On parle de tout le monde, mais finalement, on parle peu des étudiants. On parle peu de la détresse émotionnelle qui peuvent ressentir. Et c'est très, très complexe de pouvoir rester dans cette situation, alors que quand on est étudiant, ben voilà, on a toutes ces interactions sociales toute la journée. Et on fait ce choix d'être étudiant en faculté. Et on fait du coup ce choix d'aller à la faculté et non pas d'avoir des cours à domicile.
Vous arrivez à en parler de cette détresse à d'autres, non. À quelqu'un?
Non, à part à d'autres étudiants ou à l'association qui est très présente, c'est le collectif de solidarité étudiante, que je pense qu'on parlera tout à l'heure, qui permettent de mettre des mots dessus. Et bon. qui permettent surtout d'avoir de se sentir concerné, de se sentir regardé.
Évidemment, le collectif de solidarité étudiante, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui vous écoutent. C'est un petit peu d'ailleurs la même chose que pour Nightline, hein, Nightline France. Ce sont des étudiants, je me tourne un instant vers vous, Florian Tirana, vous, ce sont des étudiants qui répondent aux étudiants.
Oui, tout à fait.
Un mot de, évidemment, j'allais dire l'essentiel, c'est pas l'essentiel, mais c'est très important, c'est la situation financière. Ils vous en parlent beaucoup au téléphone?
Ils en parlent. C'est évidemment une question qui est importante, puisque la santé mentale, en fait, elle est affectée par quoi ? Par beaucoup, beaucoup de choses, mais avant tout, les conditions matérielles, ça, malheureusement, ça détermine beaucoup de choses. Quand on n'a pas de logement décent, quand on n'a pas assez à manger, et on a vu les files dans les épiceries solidaires, forcément, ça va très mal. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus tout réduire à ça. Et il y a aussi beaucoup de détresse qui ne se voit pas parmi des étudiants qui ont l'air bien, qui ont toutes les conditions pour être bien, mais pourtant, il y a une détresse psychologique qui est quand même là. Donc il faut être vigilant quand même à la manière dont on regarde le problème.
Alors on ne va pas tout réduire à ça, mais évidemment Thomas, la situation économique, elle vous pèse vous-même, d'autant que je crois que dans votre famille aussi on est impacté par cette crise sanitaire.
Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est pesant. Moi j'ai mon papa qui a perdu son emploi récemment, dû en partie au coronavirus. Donc forcément, ça pèse parce que il y a des factures qui sont à payer à la fin du mois. Et forcément, ben.
Vous aviez un petit job pour aider un petit peu à financer vos études?
Tout à fait, oui. Moi, j'ai de la chance d'avoir un job étudiant et d'avoir pu le garder.
Ouais.
Mais tout ce qui est job actuellement, ben, il n'y a plus rien pour les étudiants. Il n'y a plus rien du tout. Et ça, c'est effrayant parce qu'il y a. Il y a plus de la moitié des étudiants qui travaillent tout au long de l'année. Et là, ben, finalement, vu que les bars sont fermés, les restaurants, etc., ben, forcément, c'est des emplois qui sont perdus pour les étudiants.
Et j'ai envie de dire, ça atteint quel stade cette difficulté financière? Vous arrivez quand même à vous nourrir normalement?
Il y a eu des périodes où ça a été complexe et je parle pas que pour moi, je parle pour les étudiants en général. J'ai vraiment connu des amis avec qui j'ai pu en discuter qui me disaient qu'ils mangeaient par exemple qu'un repas par jour.
Un repas par jour?
C'est incroyable de se dire que quand même pour pouvoir étudier, on est obligé de se limiter à un repas par jour.
Vous en entendez beaucoup des étudiants comme ça qui ne peuvent manger qu'une fois par jour sur Nightline France.
Il y en a malheureusement, oui. Il y a beaucoup de difficultés et je trouve que celle-là, elle est très visible et c'est extrêmement malheureux. Malheureusement, pour beaucoup d'étudiants qui sont dans un état de détresse, quelle qu'en soit la source, ça se voit pas. Et on commence un petit peu à en parler maintenant, depuis quelques mois. Malheureusement, ça a été pas mal mis à l'agenda médiatique avec des tentatives de suicide. Mais cette détresse, elle est parfois invisible. Et pour tous les étudiants, que ce soit dans cette période qui est particulièrement dure, ou avant ou après, il y a une vraie question de la santé mentale. Et les étudiants, c'est une population qui est psychiquement fragile, plus fragile que la population générale, quoi qu'on en pense. Et pourtant, il y a très peu de moyens qui sont accordés et très peu de choses sont faites pour les soutenir. Et aujourd'hui, ça nous pète à la gueule, finalement.
Ça nous pète à la gueule. Vous-même, Thomas, vous questionnez sur l'avenir, le futur. Vous avez pensé tout envoyer balader?
Bien sûr, on y pense. On y pense parce que pour la bonne et simple raison, c'est qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui va valoir notre diplôme à la fin. Moi, je suis en troisième année de licence. Je me dis, un employeur, plus tard, quand il va recruter, quand il va voir que moi, je vais être diplômé en 2021 et que j'aurai passé un an et demi à mon domicile à travailler, et quelqu'un d'autre à côté qui aura obtenu son diplôme en 2018, par exemple, qu'est-ce que le patron va choisir, par exemple?
Vous avez peur finalement d'être de subir, enfin d'être dégradé par ce coronavirus?
J'ai peur que ce diplôme nous dégrade.
C'est ce genre de discours que vous entendez au téléphone chaque soir à Nightline France?
Malheureusement, oui. Enfin, c'est aussi des choses qui sont présentes dans la vie des étudiants. Je ne pense pas qu'il faille juger la situation à l'hypothétique interprétation d'un employeur plus tard. Le cœur du problème, il est quand même dans ce que vivent les étudiants maintenant, ce qu'ils vont vivre dans quelques mois, dans quelques années, si rien ne change, si toujours aussi peu de moyens sont accordés à leur santé mentale. Et là, on a peu de réponses, en fait. Et finalement, même répondre à la question de l'emploi futur, des aides qui peuvent être accordées, Ça passe à côté du problème de la santé mentale, des étudiants qui souffrent, qui vont pas bien, qui sont dépressifs ou ont des syndromes anxieux. Tout ça continue malheureusement.
Et je me mets un instant à la place des étudiants qui travaillent pour vous, qui prennent ces appels en ligne chaque soir, qui entendent ça. Bon, ils sont bénévoles, hein.
Tout à fait. Oui.
Mais là aussi, ça doit finir par leur peser. Eux-mêmes sont dans la difficulté.
Ils font un travail extraordinaire tous les soirs qui permet à beaucoup d'étudiants de pouvoir parler, de se sentir libre, de dire tout ce qu'ils veulent sur leurs problèmes. Et pour ça, je les remercie vraiment tous. Et heureusement, ils sont très bien suivis. Il y a beaucoup de manières qu'on a de faire en sorte qu'ils aillent bien, eux.
C'est-à-dire, par exemple, ils sont suivis. Il y a des
groupes de parole internes où ils peuvent parler. Il y a des psychologues avec lesquels on travaille. On essaye au maximum de faire des choses ensemble pour qu'ils se sentent aussi comme une communauté, comme un groupe qui n'a pas peur de parler quand elle va pas bien, puisque toute notre philosophie, finalement, c'est de dire: vous pouvez parler, il n'y a pas de problème à parler quand ça ne va pas. La santé mentale ne doit pas être un gros mot. Il faut déstigmatiser tout ça. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on applique entre nous en premier lieu.
Et vous estimez qu'il va falloir offrir aux étudiants rapidement un moyen de pouvoir trouver un interlocuteur et de parler?
Alors oui, beaucoup plus largement que ce qu'on fait. Nous, c'est un petit dispositif.
Je parle pour l'ensemble des étudiants, en tout cas l'ensemble des étudiants qui sont mal.
Oui, complètement. Il y a en France un psychologue pour 30 000 étudiants, c'est ridiculement peu. C'est impossible de prendre en charge les étudiants avec aussi peu de moyens. Et si on voit aujourd'hui que le chèque psy permet aux étudiants d'avoir 3 consultations gratuites, qu'est-ce qui se passe quand elles sont écoulées? Qu'est-ce qui se passe dans 1 an, dans 5 ans pour ces étudiants, avec toujours aussi peu de moyens accordés à la santé mentale? Il n'y a pas de raison que ça s'améliore.
Merci beaucoup Thomas, hein, qui était en ligne de Lyon. On vous dit évidemment, voilà, courage. Hein, c'est, et puis évidemment, il y a le collectif de solidarité étudiante auquel vous avez fait référence et l'association Nightline France. Il y a un numéro dans chaque ville, hein, un numéro différent dans chaque ville, mais évidemment, ça se trouve sur Internet. Merci à vous qui présidez cette association, Florian Tirana.
Merci.
On va marquer une courte pause. Je rappelle quand même l'adresse pour aider ces étudiants, don.secourspopulaire.fr/RTL. Je disais, on va marquer une courte pause et puis dans un instant, accueillir Julia Molcou pour la culture de l'actu. Julia Molcou qui va nous donner sa règle de 4. A tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Et donc on accueille Julia Molcou pour la culture de l'actu. Alors Julia, hier soir, elle écoutait RTL, le match. Elle a crié 4 fois, on l'a entendu crier 4 fois. 4-1 pour le PSG face au Barcelonais. Donc vous vous êtes dit, tiens, et si je faisais le chiffre 4 dans la culture de l'actu?
Ce à quoi vous m'avez répondu, t'es complètement perché, mais c'est d'accord.
C'est vrai.
4. 4 comme 4 saisons, ici l'hiver de Vivaldi. 4 comme les 4 groupes sanguins, les 4 cavaliers de l'apocalypse, les 4 points cardinaux, ou encore 4 comme Meg, Joe, Bess et Amy. Les 4 filles du Dr. March et des sages comme des images. Il y eut un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin, Les 4 filles du Dr. March.
Oui, mais c'est pas de vous, Julia, mais de Simone de Beauvoir.
Oui, c'est vrai. Et alors, je peux quand même le citer. C'était dans Mémoire d'une jeune fille rangée. Et je reconnais que ce générique du Club Dorothée ne rend pas hommage à sa juste valeur à ce roman de Louisa May Alcott, paru en 1868 et qui connut dès sa sortie un immense succès. Adapté de nombreuses fois au cinéma, à la télé, en dessin animé et même en comédie musicale, c'est vous dire, mais jamais en pièce musicale pour un quatuor à cordes comme celui formé par les 4 garçons qui viennent maintenant. Le quatuor français Modigliani, dans un très très court extrait, je sais, du quatuor en ré mineur opus 76 de Haydn. Haydn considéré comme le père du quatuor à cordes, pour qui il composera 68 œuvres, dont beaucoup de chefs-d'œuvre. Un peu comme la majorité des chansons écrites par les Fab Four.
Ah oui.
Certes, dans un autre genre, mais souvent inspiré là aussi par des œuvres classiques. Parce que oui, c'est bien en essayant de jouer la bourrée en mi mineur de Bach que Paul McCartney composa une variation qui donna Blackbird, titre sorti en 68. Alors bien sûr, 4 comme les Beatles, 4 aussi comme les Doors, comme le groupe Queen, comme les Rolling Stones, ou comme Raymond, Anne, Hélène et Anne-Marie.
Mais qui sont-elles?
Ben elles formaient les Parisiennes dans les années 60. Cadeau. On a fondé le club des fans de Mozart. Lui qui nous affole quand on entend ses concertos. Vous ne rêvez pas, les paroles sont bien. On a fondé le club des fans de Mozart. C'est lui notre idole, lui qui nous affole. C'était cadeau.
Bah, c'est une pépite, ça.
Je l'adore.
Ah, c'est incroyable, les Parisiennes. Quand même, parce qu'il est presque temps d'en terminer, vous avez peut-être un petit mot de cinéma?
Bah, évidemment. Alors, vous préférez quoi? Les 4 fantastiques ou 4 mariages, un enterrement? Film merveilleux sorti en 1994 et porté notamment par Hugh Grant et Andy McDowell.
Oh bah,
laissez tomber. Pour
vous.
Moi, c'est déjà vu.
Ouais,
on est
vous.
D'accord. Hein.
C'est beau. C'est vrai que ça c'est la vraie comédie romantique.
Oh, c'est la meilleure. Il y a tout.
Eh ben voilà, écoutez, vous avez bien fait rêver avec le chiffre 4 finalement. J'ai bien eu raison de vous dire oui.
Faut toujours dire oui à Julien en fait.
Voilà,
vous
merci.
Vous savez pas le nombre de blagues qu'il m'a envoyé par texto. Lui, sa 4L, son 4/4.
La 404 et tout. Alors, on a fait la matinée
j'étais
là-dessus.
J'étais très inspiré.
Merci beaucoup, Julien Molcou. À demain pour une autre culture de l'actu.